Des invités prestigieux, il y en manque encore deux et qui n'ont pas tardé d'arriver. C'est Angie Patch, oui, depuis très longtemps, Eric et moi-même, nous nous courions derrière pour les interviewer et les faire venir au studio. C'est chose faite, il y a eu des problèmes techniques qui nous ont obligés de commencer un petit peu en retard, mais enfin on n'y reviendra pas trop, c'est indépendant de notre volonté. Et donc j'ai déjà dans le studio au chant suprême le chanteur Daniel Gandret. Alors, on va déjà lui dire un petit bonjour, puis ça permettra de voir si les micros marchent. Bonjour Daniel.
Bonjour Radio Moon.
Eh ben ça marche, ça, c'est impeccable. Daniel, donc, en deux mots, j'aimerais que tu me définisses ta position, ta fonction au sein d'Angie Patch. Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que tu y joues?
Ben, j'y joue de la voix.
Tu y joues de la voix, t'es donc le chanteur. Je crois savoir que tu n'es pas rentré dans le groupe dès la fondation. Tu es venu un peu plus après, je crois.
Deux ans après, oui.
Deux ans après. Et ouais. Par quel... comment ça s'est fait?
Ça s'est fait tout à fait bizarrement. J'étais de passage chez Gilles. Et tout, en discutant, comme ça, il m'a dit, on cherche un chanteur. J'ai dit, mais je suis pas chanteur. Enfin, on va essayer...
Tu n'avais pas de formation musicale, vocale, etc.
Aucune. Tout à fait autodidacte.
Ouais, tu t'es formé sur le tas.
Sur le tas, oui.
D'accord. Donc, tu es rentré en quelle année, tu m'as dit
74.
74, le groupe étant fondé en 70, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, 70.
D'accord. Mais néanmoins, tu as participé à tous les enregistrements du groupe. Hein. Tu as été la voix du groupe du début jusqu'à la fin au niveau du vinyle.
Oui.
Mmh. D'accord. Oui.
Je dis, ils m'ont pas jeté dehors.
Ils m'ont pas jeté dehors. Ok. À la séparation du groupe en 83, c'est une question que je poserai aussi aux autres membres. Qu'as-tu fait? Est-ce que tu as continué la musique? Est-ce que tu as essayé un petit peu comme Christian Béthoum, on reviendra dessus d'ailleurs, à continuer une carrière musicale artistique, ou tu as complètement laissé tomber?
J'ai continué un petit peu avec Christian, mais au point de vue de la production, on a essayé de produire quelques cassettes ou quelques vinyles, mais qui ont hélas pas abouti.
Alors, entre autres, le 45 tours de Christian, là, qui est une musique de film, je crois, qui est restée lettre morte. Hein,
voilà, hélas, oui.
Voilà, d'accord.
On était en procès avec la maison de disque qui l'a édité.
Carrément.
Carrément. Mm-hmm. La galère continuait.
Au niveau d'Angie Patch, donc tu chantais, est-ce que tu intervenais, comme beaucoup de chanteurs, au niveau de l'écriture des textes?
J'écris quelques textes et...
Mais c'était Christian ou Gilles qui faisait plutôt les textes de...
Ils se partageaient ce genre de choses tous les deux.
D'accord. Toi, c'était plutôt au niveau donc du chant et scénique.
Ouais.
Ok.
J'écris quelques textes, mais...
Un petit bilan comme ça, on commence, mais enfin, on peut toujours faire un petit bilan. Quel bilan tu fais d'Angie Patch maintenant, je dirais presque 15 ans après? Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Est-ce que tu recommencerais?
Je recommencerais, oui.
Ouais.
Le seul désespoir, si je puis dire, c'est que ce n'est pas marché mieux. On aurait une autre chance, je pense. Mais...
Bon, on reviendra tout à l'heure. Là, c'était donc déjà un premier contact. On reviendra tout à l'heure sur l'histoire du groupe. Donc, j'ai passé tout à l'heure, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai passé l'extrait du premier album qui s'appelle Vie. Et le morceau portant le même titre, donc était le premier album. Ce premier album est sorti, je crois, en 80, c'est ça, ou 81?
80, je crois.
Oui. 80. Et est vite devenu introuvable, puisqu'il était tiré à 1000 exemplaires, exemplaires, ça s'est vite vendu.
Le morceau.
Voilà. À tel point que, bon, c'est une petite information, Musea cherche à rééditer cet album. Et donc, on n'a même pas pu mettre la main sur les bandes master, donc les bandes d'origine. Elles sont ?
On trouve plus les bandes.
Impossible à trouver. Donc, on va être obligé de travailler avec du vinyle. Ce sera peut-être pas aussi impeccable, surtout pour faire un laser. Bon, on écoutera également dans l'émission deux inédits d'Angie Patch qui sont intéressants, qui sont de 83, donc après le deuxième album. Et puis donc, on recueillera également les impressions... des deux autres compères, Gilles Masson qui est à la basse, était un des principaux compositeurs, ainsi que François Ségara qui était à la batterie. J'ai pas dit de bêtises.
C'est ça,
ils vont pas tarder à arriver. En attendant, j'aimerais que les deux autres retardataires se présentent.
Eh bien, Gilles, j'étais le bassiste.
Et François, le batteur.
Très bien.
Alors, qui est-ce qui manque autour de cette table pour qu'Andy Patch fût au complet?
Pour qu'il fût au complet, il aurait fallu d'abord Christian, qui est à La Réunion,
oui.
L'île de La Réunion,
l'île de La Réunion,
oui. Pas du OPS, hein, la vraie l'île.
Oui.
Et puis, il manque une paire de guitaristes. Il en manque au moins 4 ou 5.
4 ou 5
complet.
Pourquoi tu dis une paire de guitaristes? Vous avez été amené à changer de guitariste plusieurs fois, comme maintes et maintes groupes.
Oui, nous c'était les guitaristes qui... Alors on a commencé avec André Pacou, puis après Jean-François Bounin, après... je ne me rappelle même plus, Francis Requena.
Alain,
comment il s'appelait?
Desvignes.
Alain Desvignes. Re-André Pacou. Et puis Bilou. Donc tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il y avait 5 guitaristes au moins qui ont fait partie d'Angie Patch.
Quel est celui qui est resté le plus longtemps en tout, et qui a marqué de sa patte les 233 tours que l'on connaît?
Bah c'est André, parce que André a participé entièrement à Delirium, le deuxième. Et puis il avait non pas participé au premier, non mais au deuxième 45 tours, 6 stars. Avec Jean-François avait joué sur le premier 45 tours, Alain et Francis avaient participé au deuxième, et puis Bilou, tu entendras tout à l'heure sur l'inédit, qui était donc après post-star et post-Delirium.
D'accord. En quelques mots, peux-tu me retracer l'historique d'Angie Patch, des origines à nos jours, comme on dit? D'abord, une petite question pour éclairer la lanterne de nos chers auditeurs, qui peuvent toujours intervenir. 78, 89, 45, 05, pour poser des questions. Oui, pour éclairer un petit peu notre lanterne, qu'est-ce que ça veut dire Angie Patch? C'est un terme bien barbare.
Non, très facile, c'est un anagramme de prénom. C'est-à-dire qu'André, j'étais en 6e avec lui, quand on avait 10 ans. Vois-tu, ça nous ramène à 68, c'est une fabuleuse année. Donc j'étais en 6e avec lui, et puis la fin de l'année, j'avais le premier prix de musique, lui le second. Et puis bon, à cette époque-là, c'était un peu la guerre froide entre nous deux. Et puis en quatrième, on était toujours ensemble. Puis c'est lui qui m'a appris à jouer de la guitare. Et puis en seconde, on a changé de classe. Il a connu un certain Patrick. Et donc on avait fait un petit groupe à trois, Angie Patch, André, Gilles, Patrick. Et puis à fin de l'année, la seconde, on a connu Christian Betoum. Donc on a rajouté le CH à la fin, Angie Patch. Et on a à peine eu le temps de faire quelques concerts que ce fabuleux Patrick a abandonné le groupe, et c'est François qui l'a remplacé au pied levé tout de suite. Donc c'était en 71.
Vous n'avez pas envisagé de rechanger de remodeler le groupe?
Si, on a envisagé, mais avec FR à la place de Pat, ça devenait difficile.
Ouais, tout à fait. Dans quel lycée vous êtes connu? On est à Lyon, il n'y a pas de mystère.
Eh ben dans le lycée du 9e, lycée Jean Perrin.
D'accord, celui qui est vers Saint-Cyr-Mondor là-bas?
Voilà, sous la
route. D'accord, ok. Vous êtes tous donc groupe originaire des Mondors lyonnais.
Voilà, et puis bon, au début, Christian donc, jouait des claviers et puis chantait, mais c'était des reprises des Who, des Deep Purple.
Ça explique-moi un petit peu comment vous êtes arrivé à faire un premier 45 tours. Quelle était l'évolution? Bon, moi je la connais, mais les auditeurs la connaissent pas. Expliquez un petit peu comment vous êtes passé des reprises des Who vers un répertoire un peu plus personnel.
Bah, la reprise des Who, à un moment donné, quand c'était au moment où Pink Floyd faisait son ballet avec Roland Petit, et où il reprenait donc des danseurs classiques, on avait voulu prendre Tommy des Who, et on voulait tout le rejouer. On est arrivé au bout de la deuxième face, et puis après on a abandonné cette idée-là, et puis on a commencé à créer des chansons comme ça. Bah, ça s'est fait naturellement. Une fois qu'on commençait à dominer un petit peu le répertoire de quelques artistes qu'on aimait, bon, on a voulu faire la même chose. Truc normal. Et puis on a commencé par une bande, une bande qui doit dater de 73-74. Ça s'appelle L'Araignée maintenant. Et puis
c'était la première composition, ça.
Première expérience avec un studio.
D'accord. Qui est resté nettement, je crois qu'il n'y a jamais eu de disque qui est sorti de ça.
Oh bah oui, parce que c'était... c'était pas
les premiers pas.
Les premiers pas. Voilà. On avait 15 ans, hein, 16 ans déjà à l'époque.
Ah,
on avait cassé les tirelires pour enregistrer une demi-journée et puis mixer l'autre demi-journée. Donc le résultat n'était pas terrible demain.
Ouais, mais c'était quand même formateur, parce que ça vous a permis de voir un petit peu le monde du studio.
Et c'était formateur. Et puis bon, on a composé notre propre répertoire et puis on a commencé à jouer dans des différents clubs. On a même joué à l'INSA en 76.
Ah, vous êtes bien venu ici, là.
À l'éditorium, oui. Oui, puis à Ménival, et puis des tas de...
Alors, 45 tours Terre des Vilains, date de quand, en fait?
De 76.
76.
On avait joué à l'INSA, à cette époque-là.
Autoproduction également,
Autoproduction.
Et enregistré au studio?
Togo Saga.
Togo Saga, je crois que c'était ABM, non?
C'est le même.
C'est pareil. Ah, d'accord.
C'est le même.
Est-ce que le studio existe toujours ou il a fermé ses portes?
Le studio existe toujours, il est pas bien loin de là, à 1 km d'ici.
Ah, d'accord. Donc, premier 45 tours, est-ce qu'il y a eu un petit peu d'articles, l'audience, l'impact? Qu'est-ce qu'il a donné, ce 45 tours, à part la vente aux copains, aux amis, etc.?
C'est à peu près tout.
C'est à peu près tout. À l'époque, vous faisiez des concerts à l'époque?
On faisait des concerts.
Oui, tu m'as dit à l'INSA. Et vous en vendiez un petit peu à la sortie
Ah oui, c'est vendu en 2-3 mois, quoi. Mm-hmm. Et puis, il y a eu l'armée.
Eh oui. Et oui, comme pour beaucoup d'entre nous.
Donc François et moi, on est partis en même temps, en octobre 76, puis on est revenu en septembre 77. Enfin, septembre 77. Et là, on a recommencé donc le groupe. Pendant ce temps-là, Christian donc avait trouvé un autre guitariste, qui était donc Francis. Et puis il avait trouvé le studio, on répétait dans le studio Togo Saga. Ce qui était bien pratique. Donc après ça, on a recommencé pour un 33 tours. Et là, cette fois-ci, on est monté à Paris pour donc Vie. Et on a eu un marché avec une maison de disques, ça a failli marcher, mais la maison de disques a fait faillite.
L'histoire d'Angipat s'est ponctuée chaque fois comme ça de petits coups de malheur, je crois.
De petits coups de malheur, bah oui, puisqu'après, bon,
mauvais sort.
On a failli se séparer à ce moment-là, donc c'était début 80, parce que bon, on ne pouvait plus continuer comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve un producteur, donc Eric Ossetti. Avec lui, on est reparti pour un deuxième tour, pour le deuxième 33 tours.
Alors arrêtons-nous un petit moment sur Vie qu'on a entendu tout à l'heure. Le concept, tu nous le rappelles un petit peu, ce côté un petit peu écologiste, etc. Tu me rappelles un petit peu l'idée qui était derrière, puis c'est un concept album.
Concept album. Oh, c'était ambitieux, c'était de partir de la création de la Terre jusqu'à sa destruction, mm-hmm. tout simplement.
Mm-hmm.
Un raccourci de quelques
années. Avec cette goutte qui était en couverture et qui changeait de couleur de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait comme symbolisme derrière?
C'était le côté entre le bien et le mal, le noir et le blanc.
La pureté, la pollution, des choses comme ça.
Voilà,
ouais.
Toujours ça.
D'accord.
La vie et la mort.
Uh-huh. Tiré à 1000 exemplaires.
Tiré à 1000 exemplaires.
Et tout parti.
Tout parti.
Tout vendu pendant les concerts, etc. Est-ce qu'il y a eu une distribution régionale ou nationale?
Non, c'est uniquement pour les concerts.
Uniquement pour les concerts. Et il a été accueilli par la presse, disque ou pareil?
Oui, il a été chroniqué dans Best, je crois, à l'époque.
Ah, d'accord.
On était allé voir Hervé Picard.
Ouais. À l'époque où il s'intéressait au progressif.
À l'époque où il s'intéressait au progressif, où lui-même avait fait un groupe avec des synthés.
Mm-hmm.
On était allé à Paris pour ça, ouais.
Ah, d'accord. Vos contacts avec la scène progressive lyonnaise, tu m'as dit que tu connaissais un petit peu d'autres groupes, alors parle-moi un petit peu de ces contacts, Terre Pendre, Pulsar, il y a même des histoires de famille, je crois.
Des histoires de famille, par un curieux hasard, le guitariste de Terre Pendre était le beau-frère de ma femme. On a connu...
Bernard Monnery, hein.
Bernard Monnery, ouais. On a connu aussi Pulsar, parce qu'on avait fait un concert avec eux, mais ça c'était à la Duchère, ça devait être en 74-75.
Vous étiez en première partie
En première partie, ouais. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on a connu? On a connu Sphéroé aussi, qui a
rendu Sphéroé, ouais. Deux albums, puis après qui sont devenus Memon Angèle Entreprise.
Voilà, on a connu Vortex aussi, ce serait au même moment que nous on enregistrait Vie.
Et il y avait à l'époque, tu me disais, il y avait une saine émulation, hein, c'était à celui qui arrivait à faire un petit peu mieux que les autres. Mais est-ce que c'était un combat féroce ou c'était plutôt amical?
C'était une indifférence totale.
Une indifférence totale. Qu'est-ce qu'en pensent les deux autres? Ils disent rien, là, ils sont de leur côté, là. Qu'est-ce que pense François, là, de cette période, cette période progressive avec les autres groupes? Est-ce que c'était sympathique ou au contraire c'était une indifférence ou une compétition?
J'ai pas grand souvenir de cette époque, c'est vrai.
Ouais.
Donc.
Et Daniel, qu'est-ce qu'il en dit, lui?
Moi, c'est un peu pareil. Il vient pas avoir lutté ardemment contre d'autres groupes.
Il y avait une admiration.
C'est vrai que c'était plutôt de l'indifférence, c'est-à-dire on faisait chacun notre truc.
Chacun votre truc de votre côté.
Sans se mettre des bâtons dans les roues, mais sans non plus être.
Sans non plus collaborer.
Non,
sans c'était plus... peut-être un peu dommage. Hein.
Peut-être.
Ouais. J'ai senti qu'il y avait des liens un peu plus prononcés entre Terre Pendre et Pulsar. J'ai vu qu'ils étaient quand même
à ses copains, ils s'étaient entraînés un peu plus ou moins l'un l'autre. Hein.
On se connaissait très peu quand même.
Vous connaissez très peu. Pourtant Lyon, c'est pas immense. Hein.
Ouais. On se connaissait de visu dans les studios.
Ah ouais, d'accord.
On se trouvait à Playback aussi, le magasin de musique.
Mm-hmm. Qui se trouvait à
Gerland. Vers la patinoire.
Ah ouais, d'accord.
Mm-hmm. Et puis c'est pas la meilleure période qu'on ait vécue, quoi. Donc on n'a pas.
Mmh. Alors quelle est la meilleure période pour toi là?
Périssable.
Hein?
La meilleure période c'est la période du deuxième album.
Du deuxième album. Raconte un petit peu tes.
Le deuxième album et puis la fin de la page.
Ouais. Alors pourquoi c'est la meilleure période pour toi? Parce que ça, vous avez cru que ça allait marcher.
Oui, parce que c'était là où on avait le meilleur matériel qu'on n'avait jamais fait, quoi. Donc. Je pense que si ça devait marcher, c'était là que ça aurait dû marcher. Non, pas avant, je pense pas que ça aurait pu marcher de toute façon.
Donc avant vie ou même pendant vie?
Ouais, peut-être même pendant vie. À moins d'avoir un coup de chance phénoménal, mais je pense pas que.
Donc ouais. la meilleure période pour le groupe, d'après vous, ça a été autour de Delirium et du 45 Tours Star, c'est-à-dire ouais. 81-83.
À mon avis, ouais.
Ouais. Alors, comment expliquez-vous le fait que ça n'a pas marché, puisque vous aviez tous les atouts pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah là, on était au top, je pense. Hein, mais bon, il suffit pas d'être au top.
Je me rappelle vous avoir vu à l'Écho des Bananes, j'en ai même gardé une trace sur vidéo.
Ouais.
Donc, effectivement, on sentait en plus, bon, j'avais découvert personnellement Vie et peut-être deux mois après, même pas, voilà, Delirium qui sort, oulala, mais ils ont un potentiel, c'est assez dingue. C'était assez impressionnant, je disais, mais ils vont faire quelque chose, ces petits. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché?
Ah, c'est la maintenance qui n'a pas suivi, on pourrait dire. Parce que nous, en fait, on faisait notre boulot, au niveau...
C'est au niveau du manager, alors? C'est eu des problèmes, on va pas trop laver le linge sale, mais il y a eu des problèmes, je crois, avec le manager du groupe qui vous avait pris en main et qui finalement était insolvable, je crois. Hein. C'est un peu ça. Hein.
Oui, bon, il y a eu ça aussi.
Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un problème de conjoncture aussi, le fait que en 83...
Il a peut-être pas rencontré les bonnes personnes au bon moment. Ça aussi, hein.
Est-ce que vous pensez aussi que le fait que Progressif était dans le creux de la vague, puisque 83 c'est avant le redépart de Marillion, excuse-moi, est-ce que vous pensez que ça a aussi joué ça?
Sûrement. Oui, ça jouait, ouais.
Ouais.
Sûrement.
On n'a jamais été là au bon moment.
Très défaitiste.
Non, mais réaliste.
Non, mais c'est vrai, ouais. Peut-être qu'on aurait fait la même chose aujourd'hui.
Ouais. Justement, je me dis, est-ce que maintenant,
ça tient aussi à l'attitude des maisons de disques. Mmh. Quand on est allé les voir en 80, bon, Pink Floyd venait juste de sortir The Wall, Stand of the Break in the Wall, j'étais la pleine place du disco. Quand on s'est ramené avec notre musique, on dit, non, on veut juste un pied de grosse casse, là, pom, 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 comme ça passe avant. Après, la deuxième fois qu'on est monté, c'était en pleine période Police, 80, 82, Police, Madness, etc., le ska.
Mmh.
On avait dit, on s'en fout de ça, nous, c'est notre musique. Mmh. Non, nous, on veut quelque chose sous Madness, on veut regarder Police et tout, c'est super, une guitare sèche, tout dépouillé. On est toujours tombé à contre-courant, quoi.
Mmh.
Et pour Star, bon, on a eu un petit contrat avec Polydor, mais c'était pas grand-chose. Ils ont pas cru, ils ont pas mis le paquet non plus.
Ça, c'est le 45 Tours Star. Alors, qu'est-ce qui est devenu ce 45 Tours Star? Parce que là, pour une fois, vous signez vraiment avec une maison de disques, c'est plus une autoproduction.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un petit peu de justement, tu me dis, t'as l'air de dire qu'il n'y a pas eu de
non, le
vraiment de volonté de
mise de... plus de 20 ou 25 000 vendus. Dans
pas mal.
Et non, mais c'était le but. Puis en fait, on n'en a pas vendu tant que ça. Et puis en plus, quand on allait dans un disquaire, c'était pas facile de le trouver non plus.
Uh-huh.
Sinon, qu'à Lyon, on l'a mis un peu de partout, même dans toute la région Rhône-Alpes. On a fait un grand tour. Delirium, c'était pareil. Mais en fait, la maison 10 s'en occupait pas.
Ouais, ils n'ont pas fait, disons, ce qu'il fallait pour qu'il soit distribué convenablement, je pense.